Bonjour à tous. Deuxième jour de notre série consacrée à l'Amérique de Joe Biden et aux grands défis économiques qui attendent le nouveau président. Si la victoire de Donald Trump il y a 4 ans n'a pas entraîné un effondrement des marchés financiers, contrairement aux prévisions du prix Nobel d'économie Paul Krugman, la croissance américaine a été brutalement interrompue dans sa lancée par la pandémie et c'est toute l'économie qui doit aujourd'hui se relever. Pour financer son nouveau New Deal, Joe Biden a d'ores et déjà prévu d'augmenter les impôts, mais aura-t-il les moyens de réformer la fiscalité? Surtout, comment les États-Unis, qui étaient à la pointe de la justice fiscale dans la première moitié du XXe siècle, sont-ils devenus les champions des inégalités? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour parler de justice ou d'injustice fiscale en Amérique, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à distance Gabriel Zucman, économiste, professeur associé à l'université de Berkeley, meilleur jeune économiste 2018 et auteur, avec Emmanuel XVI, de cet ouvrage « Le triomphe de l'injustice, richesse, évasion fiscale et démocratie » paru il y a quelques mois au Seuil. En fin d'émission, le journal de l'Écho vous sera présenté par Xavier Martinet.
Tout le pays se mobilise pour la guerre totale. Votre pays a besoin de vous. Êtes-vous patriote? Impatient de remplir votre devoir? Alors, il y a quelque chose d'important que vous pouvez faire. Vous n'aurez pas de médaille pour ça. Cela implique un sacrifice de votre part. Mais ce sera une aide vitale pour votre pays qui en a tant besoin. Dois-je vous dire de quoi il s'agit? Je peux? De votre impôt sur le revenu. Ce n'est peut-être pas important à vos yeux, mais pourtant ça l'est. Oui, et c'est votre privilège. Pas juste votre devoir, mais votre privilège d'aider votre gouvernement en payant vos impôts et en les payant rapidement. Plus vite vous ferez vos déclarations, plus vite ils la prendront en compte. Car ce sont vos impôts, mes impôts, nos impôts qui font fonctionner les usines.
Bonjour Gabriel Zucman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis la Californie. Alors, on a ouvert cette émission avec Donald Duck, star d'un dessin animé de propagande réalisé par Walt Disney en 1942. L'impôt sur le revenu, ce n'est pas juste votre devoir, c'est votre privilège. Voilà le message du gouvernement qui vient alors d'entrer en guerre contre les forces de l'Axe. On est loin d'un autre Donald, Donald Trump, qui se vantait, lui, de ne pas payer d'impôts parce qu'il était malin, Gabriel Zucman.
Oui, tout à fait. Dans le débat télévisé qu'il avait opposé à Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle de 2016, Hillary Clinton l'avait attaqué en lui disant « D'après des éléments d'information disponibles, vous ne payez pas d'impôts sur le revenu, ou très peu. » Et il avait répondu « That makes me smart », ça veut dire « je suis malin ». Et cette réponse illustrait très bien les changements idéologiques qui ont eu lieu aux États-Unis depuis la victoire de Ronald Reagan dans les années au début des années 80 et qui in fine sont essentiels pour comprendre le succès qu'a pu avoir Donald Trump pendant longtemps, disons de la présidence de Franklin Roosevelt jusqu'aux années 70, les présidents successifs avaient essayé de créer des normes sociales visant à encourager le paiement des impôts, à expliquer pourquoi, effectivement, le système fiscal, les impôts, c'était essentiel pour la civilisation, pour le bon fonctionnement de l'économie américaine, du gouvernement américain. Et à partir des années 80, Ronald Reagan prend l'exact contre-pied de tout ça. Il explique qu'en substance, c'est la quête effrénée de l'intérêt personnel qui est le moteur de la croissance économique, du progrès humain, et que donc ne pas payer d'impôts, c'est non seulement légitime, mais ça va en fait être une force de progrès et de croissance économique. Mais évidemment, cette idéologie aboutit à des contradictions évidentes. Le moteur moteur de la croissance, c'est pas le chacun pour soi effréné, c'est la coopération. Et la coopération, elle se fait en particulier via le système fiscal qui prélève chaque année. Aux États-Unis, c'est de l'ordre de 30% du revenu national. En France, c'est de l'ordre de 50% du revenu national qui sont prélevés et ensuite dépensés et redistribués en dépenses d'éducation, de santé, d'infrastructures qui sont les clés de la croissance économique.
On va revenir, Gabriel Zucman, sur cette histoire de la fiscalité aux États-Unis et sur les propositions qui ont été faites par Bernie Sanders et par Joe Biden, évidemment. Mais d'abord, Donald Trump a été élu il y a 4 ans, entre autres, sur 2 promesses, baisser les impôts et rembourser la dette. Alors, il a tenu la première, c'est la réforme fiscale de décembre 2017, on va y revenir, mais pas la seconde. Avant même le Covid, le déficit public avait largement augmenté aux États-Unis.
Effectivement, la grande réforme fiscale de Donald Trump qui a été votée en 2017 ne s'est pas faite à budget constant. Elle a été financée via une augmentation des déficits publics et de la dette publique. Néanmoins, cette augmentation des déficits, de la dette, c'est pas la chose la plus horrible qu'a faite Donald Trump pendant son mandat. Loin de là, les États-Unis, comme la plupart des pays développés aujourd'hui, bénéficient de taux d'intérêt très faible, de l'ordre de 1% aujourd'hui pour les obligations à 10 ans. Ce qui fait que malgré l'augmentation des déficits et de la dette publique, en termes de paiement d'intérêt aujourd'hui, ces flux de paiement d'intérêt sont relativement faibles et donc il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette ou de déficit excessif. Le vrai problème que pose cette réforme fiscale financée par les déficits, c'est un problème inégalitaire car cette réforme venait rajouter une couche d'injustice fiscale sur un système fiscal qui était déjà assez régressif, c'est-à-dire où les plus aisés payaient des taux d'imposition plus faibles que les catégories sociales moyennes et populaires.
Avec Donald Trump, les États-Unis ont tout de même renoué avec le fléau du twins déficit qui survient lorsque le déficit commercial s'aggrave en même temps que le déficit budgétaire. C'est une situation assez préoccupante tout de même, Gabriel Zucman.
C'est une situation qui est préoccupante si les taux d'intérêt sont élevés et donc ces twin déficits étaient un motif de préoccupation dans les années 80 sous Reagan quand les taux d'intérêt sur la dette publique étaient encore de l'ordre de près de 10%. Dans ce cas-là, c'est vrai que davantage de déficit, davantage de dette publique, ça veut dire que l'État doit immédiatement payer des intérêts très élevés aux détenteurs de dette publique et donc c'est autant d'argent qui ne peut pas aller dans l'éducation, qui ne peut pas aller dans la santé, qui ne peut pas aller dans les dépenses d'infrastructures, qui ne peut pas aller dans les retraites. Et donc là, il y a un vrai problème. En revanche, aujourd'hui, avec des taux d'intérêt de 1%, même si vous avez une dette publique, pour simplifier, qui est de l'ordre de 100% du PIB, mais que vous payez 1% d'intérêt sur cette dette publique, bah, ça va faire des paiements d'intérêt de seulement 1% du PIB. Donc ça va pas grever les capacités de l'État à financer les biens et les services publics essentiels.
Alors ce qui a contribué à creuser la dette, vous l'avez dit, c'est donc cette réforme fiscale de Donald Trump de décembre 2017. 6 mois plus tard, le président des États-Unis en dressait un premier bilan. Écoutez-le.
Il y a 6 mois, nous avons provoqué un miracle économique en signant les plus grandes baisses d'impôts de l'histoire américaine. Je suis honoré de vous inviter à la Maison Blanche pour marquer les 6 mois de création d'emplois, d'augmentation des salaires, 6 mois pendant lesquels vous avez pu garder l'argent gagné à la sueur de votre front à sa place, dans votre poche. Une famille moyenne de 4 personnes qui gagne $75,000 par an verra son niveau d'imposition baisser de plus de $2,000, parfois plus. Nous avons baissé les impôts sur les entreprises de toutes les tailles afin de faire des États-Unis le meilleur endroit du monde pour lancer une entreprise et investir. Nous avons des milliards et des milliards de revenus additionnels qui rentrent. Nous avons baissé les impôts sur les sociétés pour que les travailleurs américains puissent se battre à armes égales. Nous avons aussi permis aux entreprises d'exonérer fiscalement chaque centime dépensé dans l'achat de nouveaux équipements. C'est le grand secret du plan. Je pense qu'on s'en souviendra comme étant l'élément le plus important. C'est vraiment incroyable pour lancer ou gérer une entreprise. Nous avons grandement réduit le fardeau de l'impôt injuste sur les successions. C'est immense. La plupart des fermes et des PME ne paieront plus d'impôt sur les successions.
Gabriel Zucman, que vous inspirent ces propos de Donald Trump? Quelle a été l'efficacité économique de cette grande réforme fiscale?
Ah, il y a beaucoup de choses dans ces propos qui sont intéressants, mais si on part de ce qu'il dit à la toute fin sur l'estate tax, l'impôt sur les successions, il dit « Ah, c'est fantastique, j'ai supprimé l'impôt sur les successions pour les petites entreprises, les PME ». La réalité de la réforme qui a été faite est la suivante. Avant la réforme de Donald Trump, il n'y avait aucun impôt sur les successions pour les couples mariés qui laissaient 10 millions d'héritage ou moins. Et ce qu'a fait Donald Trump, c'est qu'il a doublé ce seuil d'exonération à 20 millions. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez laisser 20 millions de dollars d'héritage à vos enfants ou même à d'autres, à des fondations, à des neveux, à des nièces. 20 millions sans payer le moindre impôt sur les successions. C'est ça, sa réforme de l'impôt sur les successions. C'est évidemment un cadeau aux ménages extrêmement fortunés, et les républicains depuis Reagan détestent l'impôt sur les successions, qui est un des impôts les plus progressifs aux États-Unis parce qu'il ne concerne effectivement qu'une petite minorité de contribuables très fortunés, et essayent depuis les années 80 de l'abolir complètement. Trump a pas réussi, mais il s'en est approché de cette abolition un peu plus que Bush, par exemple.
Mais est-ce que le fait de diminuer l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de le faire passer de 35% à 21%, est-ce que ça n'a pas agi comme un moteur pour l'économie, Gabriel Zucman?
Alors, c'est effectivement une question qui mérite d'être posée. Et pour y répondre, il faut regarder les chiffres. Donc là, la réforme fiscale s'est appliquée à partir de 2018. On peut regarder quel a été l'investissement des sociétés en 2018 et en 2019, les dépenses d'investissement, et on voit qu'il n'y a pas eu de boom de l'investissement. Au contraire, il y a même eu plutôt une baisse de l'investissement en 2018 par rapport à 2017. Et donc, la théorie sous-jacente à cette réforme fiscale qui consistait à dire, bon, en détaxant l'investissement, en détaxant les bénéfices des sociétés, on va avoir un boom de l'investissement des sociétés, ce qui, in fine, va rendre les travailleurs plus productifs, avec plus de capital, plus de machines, les travailleurs sont plus productifs, et donc va conduire à des augmentations de salaire. Cette théorie a une certaine plausibilité, mais quand on la confronte ensuite à la réalité des chiffres, on voit qu'en tout cas sur 2018 et 2019, rien ne semble indiquer que cette mécanique vertueuse se soit enclenchée. Alors, évidemment, ça peut mettre plus que 2 ans, et donc on aurait aimé voir les chiffres sur 2020, 2021, mais la crise du coronavirus est venue bouleverser tout ça, et donc on ne saura jamais vraiment précisément quel a été, hélas, l'effet de cette réforme fiscale en matière de son effet sur l'investissement des entreprises. Simplement, l'effet de premier ordre, l'effet qui domine de loin, c'est surtout que cette réforme a réduit les taux effectifs d'imposition sur les hauts revenus et sur les hauts patrimoines via la baisse de l'impôt sur les successions, les hauts revenus parce que maintenant, avec un taux d'impôt sur les bénéfices de 21%, il était de 35% avant la réforme de Donald Trump, et maintenant il est de 21%, 21%, ça veut dire que les entreprises ont simplement plus de profits disponibles qu'elles peuvent soit réinvestir, soit distribuer à leurs actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d'actions. Et ça, on a vu que les rachats d'actions ont été en pleine explosion en 2018 et 2019. Autant on n'a pas vu d'augmentation significative de l'investissement dans l'outil productif, autant on a vu des programmes de rachat d'actions se développer. Et donc ça génère des revenus pour les actionnaires de ces entreprises.
Gabriel Zucman, on l'a dit, beaucoup d'Américains ont le sentiment de payer trop d'impôts. Pourtant, ce que vous expliquez dans votre livre « Le triomphe de l'injustice » écrit avec Emmanuel Seize, c'est qu'en réalité, la progressivité de l'impôt est faible aux États-Unis. Vous parlez d'une gigantesque flat tax.
Tout à fait. C'est-à-dire que si vous prenez en compte l'ensemble des prélèvements obligatoires aux États-Unis, à tous les niveaux de gouvernement, il y a l'État fédéral qui prélève des impôts, mais il y a aussi les États et les gouvernements locaux. Quand vous additionnez toutes ces taxes et ensuite vous calculez le taux effectif d'imposition pour les différents groupes sociaux, et vous vous rendez compte de la chose suivante. En moyenne, les Américains payent environ 28% de leurs revenus en impôts. Pour toutes les catégories sociales, les classes moyennes, les classes populaires, jusqu'aux classes moyennes supérieures, elles payent peu ou prou 28%. Et la seule exception notable, c'est les milliardaires, les 400 plus grandes fortunes américaines qui ont été popularisées par le magazine Forbes, qui publie tous les ans un classement des 400 plus grandes fortunes américaines. Pour ces milliardaires, le taux effectif d'imposition est de seulement 23% en 2018, suite à la réforme fiscale de Donald Trump. Et d'après nos calculs, c'est en 2018, c'est la première année où les milliardaires ont payé un taux d'imposition effectif plus faible que les autres catégories sociales et en conséquence directe de la réforme fiscale de Donald Trump. Donc une façon simple de résumer tout ça, c'est effectivement une grande flat tax, c'est-à-dire que quel que soit votre niveau de revenu, vous payez à peu près 28%, avec une seule grande exception, les milliardaires.
Et alors comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation, Gabriel Zucman? C'est lié au fait que les plus précaires payent davantage de taxes sur la consommation?
Alors, il y a deux choses. D'abord, pourquoi est-ce que les classes populaires, les classes moyennes payent beaucoup d'impôts? C'est lié au fait qu'il y a des cotisations sociales assez élevées aux États-Unis, au total moins élevées qu'en France, mais à la différence de la France, ces cotisations sociales s'appliquent dès le premier euro de salaire gagné, dès le premier dollar de salaire gagné, sans taux réduit. Donc, par exemple, si vous êtes payé au SMIC, au salaire minimum américain, qui est très faible, le salaire minimum fédéral est de 7,25 $ de l'heure aux États-Unis aujourd'hui. Et bien, tout de suite, vous allez payer 15,5% en cotisations sociales sur ces salaires-là. Donc, ça, c'est la première chose. Et ces cotisations sociales, elles ont beaucoup augmenté au cours du temps pour financer les retraites et l'embryon d'assurance maladie publique qui existe aux États-Unis, qui s'appelle Medicare. L'autre élément, c'est qu'il y a des impôts sur la consommation, effectivement. Les États-Unis n'ont pas de TVA, de taxe sur la valeur ajoutée, comme la France au niveau national, mais les différents gouvernements locaux, les municipalités et les États ont leurs propres impôts sur la consommation, qui, à la différence de la TVA française, sont encore plus régressifs que la TVA française, parce que ces impôts sur la consommation ne s'appliquent que aux biens de consommation et pas aux services. En France, la TVA s'applique aussi aux services. Aux États-Unis, c'est que sur les biens. Et les ménages à faible revenu, dans leur panier de consommation, il y a surtout des biens et relativement peu de services. Donc ça, c'est la raison pour laquelle les classes moyennes et populaires ont quand même des taux effectifs d'imposition assez élevés aux États-Unis. Maintenant, pourquoi est-ce que les milliardaires payent si peu? Et ça, c'est quelque chose qui choque beaucoup les Américains parce que ils vivent encore, beaucoup d'entre eux, avec l'idée que, certes, les États-Unis ne collectent pas beaucoup d'impôts, mais au moins, ils le font de façon progressive. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe tout au sommet de la distribution des revenus et des patrimoines, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai? Tout simplement parce que quand vous avez une énorme fortune de milliards, de dizaines de milliards, maintenant, il y a un certain nombre de milliardaires qui ont plus de 100 milliards de dollars de patrimoine, comme Bill Gates, comme Jeff Bezos, comme Elon Musk, à ces niveaux de fortune-là, c'est très facile de posséder des milliards tout en déclarant très peu de revenus taxables. Par exemple, Jeff Bezos, Elon Musk, ce sont des actionnaires de grandes sociétés cotées, Amazon, Tesla, qui ne versent pas de dividendes. Donc ensuite, leurs revenus imposables sur leur feuille d'impôt, sur le revenu des personnes physiques, il y a très peu de revenus taxables, tout simplement parce que ces milliardaires ordonnent à leurs entreprises de ne pas distribuer de dividendes. Et c'est comme ça qu'on peut être immensément riche et in fine payer très peu d'impôts.
Parce que les dividendes sont taxables alors que les actions ne le sont pas. C'est pour ça que vous préconisez, Gabriel Zucman, d'imposer les actions.
C'est à partir du moment où on a compris qu'il y a ce problème-là, c'est-à-dire que quand vous avez une très grande fortune, c'est assez facile de structurer votre richesse de façon telle à avoir peu de revenus imposables et donc à payer peu d'impôts sur le revenu, la conclusion découle assez logiquement qu'il faut effectivement, si on veut éviter l'injustice fiscale, si on veut éviter que le système fiscal ne devienne régressif au sommet de la distribution, il faut un impôt sur la fortune elle-même. Ou pour le dire autrement, il y a deux types de ménages très fortunés. Il y a des gens qui ont beaucoup de revenus, pour eux l'impôt sur le revenu suffit, Puis il y a des gens qui ont beaucoup de patrimoine, mais peu de revenus imposables. Et pour eux, ces ménages-là ont une capacité contributive élevée. C'est des milliardaires, donc ils ont des moyens de payer beaucoup d'impôts. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas, en tout cas les États-Unis n'arrivent pas à leur faire payer beaucoup d'impôts. Et c'est pour ça qu'en plus de l'impôt sur le revenu, il faut un impôt sur les très hauts patrimoine, sur les actions, vous l'avez mentionné, mais les autres formes de patrimoine aussi, l'immobilier, les portefeuilles de titres financiers diversifiés, d'actions, de parts de fonds de placement, etc. Tout ça net des dettes. Et on a vu d'ailleurs aux États-Unis que cette idée d'un impôt sur la fortune, et en particulier d'un impôt sur l'extrême richesse, sur les très grandes fortunes, est très populaire, a été au cœur de la campagne présidentielle de 2020, en particulier des primaires démocrates, avec deux candidats, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, qui ont porté des plans ambitieux de création d'un impôt sur l'extrême richesse aux États-Unis.
On va voir effectivement ce que proposent Bernie Sanders et Elizabeth Warren, mais d'abord, il faut dire qu'on trouve aussi, chez les plus fortunés, davantage de stratégies pour échapper à l'impôt.
Et comment ça fonctionne ? Ces sociétés offshore dont on parle là, et comment on sait si c'est une bonne idée? Tout d'abord, vous devez vous poser la question, êtes-vous riche? Il y a un peu plus de 2000 milliardaires sur la planète Terre. Peut-être que vous êtes l'un d'eux, ou peut-être que vous n'êtes qu'un millionnaire. Il y en a 15 millions dans le monde. Ou peut-être vous prenez de l'âge et il est temps de préparer votre héritage. Ou alors vous êtes jeune et vous bâtissez un empire, comme nos amis là-bas. Vos ambitions vous amènent là où l'argent est roi. Par exemple, une banque, une grosse banque, sans doute en Europe. Et vous vous retrouvez assis en face d'un gestionnaire de biens, un conseiller financier, un banquier. Vous exposez vos inquiétudes, l'impôt sur le revenu, l'impôt local, les droits de succession, l'impôt sur les plus-values. Votre conseiller, qui est très à l'écoute, suggère de créer une société offshore où vous pourrez mettre vos actifs à l'abri des regards. Et c'est là que nous, on entre en scène.
Extrait du Laundromat, le film de Steven Soderbergh de 2019, qui revient sur l'affaire des Panama Papers. Alors, de la même façon que Donald Trump estimait que c'était être malin que de réussir à échapper à l'impôt, de plus en plus d'Américains estiment que c'est leur droit que de s'y soustraire. Et c'est ainsi, nous dites-vous dans votre livre, Gabriel Zucman, que l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale ont explosé aux États-Unis.
Effectivement, elles ont explosé aux États-Unis depuis les années 80, mais pas qu'aux États-Unis, dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a une industrie faite d'intermédiaires juridiques, financiers, concrètement de banques, d'institutions financières, de sociétés spécialisées dans la création de trusts, de sociétés écrans, qui s'est développée depuis les années 80, dans un contexte de vide, de quasi-vide juridique, d'absence de réglementation nationale et internationale. Et cette industrie, elle cible les ménages très fortunés, elle leur vend des montages fiscaux, des produits d'évasion fiscale, des possibilités de se soustraire à l'impôt via sociétés offshore, comme dans le cas des Panama Papers, via comptes dissimulés à l'étranger, comme certaines grandes banques de gestion de fortune internationale. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette évasion fiscale n'est en rien une fatalité ou une loi de la nature. C'est quelque chose que les décideurs publics peuvent tolérer, parfois même encourager, comme dans le cas de Donald Trump, mais c'est aussi quelque chose que les décideurs publics peuvent choisir de ne pas accepter. Et donc cette industrie-là, elle peut être régulée, elle peut être limitée, et c'est ce que les États-Unis faisaient des années 30 jusqu'à la fin des années 70, parce que il faut se souvenir qu'à cette époque-là, les États-Unis avaient un système fiscal très progressif avec des taux marginaux d'imposition sur les plus hauts revenus qui allaient jusqu'à 94%, des taux sur les plus hautes successions qui allaient jusqu'à 77%, des taux d'imposition des bénéfices des sociétés qui allaient au-delà de 50%.
Donc on aurait assister à ce moment-là à une évasion fiscale massive.
Exactement. On aurait pu se dire, comment est-ce que ça a pu marcher? On aurait dû assister, comme vous venez de le dire, à une évasion fiscale massive, mais ces mêmes gouvernements qui appliquaient un système fiscal très progressif prenaient aussi très au sérieux la lutte contre l'évasion fiscale et contre l'optimisation fiscale via de la réglementation financière, via de la collecte d'informations, aussi en créant les normes sociales, comme on l'a bien vu au début de l'émission, visant à expliquer aux contribuables l'importance de bien payer ses impôts. Et donc, d'après les statistiques disponibles, on voit que l'évasion fiscale au mi-temps du XXe siècle jusqu'à la fin des années 70 était en fait assez limitée. Et au contraire, c'est quand Ronald Reagan accède à la Maison-Blanche et qu'il dit, il tient ce célèbre discours, il dit « le gouvernement n'est pas la solution à vos problèmes, le gouvernement c'est le problème ». Donc ce discours-là vient légitimer les forces de l'évasion fiscale, et c'est à partir de ce moment-là qu'on observe un boom de cette industrie. Par exemple, on le voit très clairement dans les chiffres publics issus des Panama Papers, le nombre de sociétés écrans qui ont été créées chaque année par cette société panaméenne Mossack Fonseca, dont sont issus les Panama Papers. On peut compter chaque année combien de sociétés écrans elle a créées. Jusqu'au début des années 80, c'était anecdotique, et ensuite on passe de l'ordre de 1000 sociétés écrans créées tous les ans dans les années 80, un ordre de grandeur de l'ordre de 10 000 sociétés écrans créées chaque année dans les années 90 et les années 2000. C'est à ce moment-là qu'on assiste au boom de l'évasion fiscale.
Et pourtant, malgré des efforts importants en faveur de la lutte contre l'évasion fiscale ces dernières années, une opinion publique de plus en plus hostile à l'évasion fiscale, ce qu'on constate, c'est que les progrès sont très lents, alors même que selon la chercheuse Bernadette Anne-Marie Hoard, les revenus perdus à cause de l'évasion fiscale des entreprises seraient supérieurs aux dépenses de santé des gouvernements.
Alors, mon point de vue est peut-être un peu moins pessimiste, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, il y a eu des progrès réels, insuffisants, mais réels et qu'il faut souligner, en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Donc concrètement, avant la crise financière de 2008-2009, il n'y avait aucun échange d'informations bancaires entre les établissements financiers situés dans les paradis fiscaux et les administrations fiscales étrangères. Dans ce contexte-là, c'était vraiment très facile de dissimuler sa fortune en Suisse ou aux îles Caïmans. Aujourd'hui, il y a un échange automatique d'informations bancaires entre les banques suisses et le fisc français et les administrations fiscales des autres pays. Alors bien sûr, ce serait un peu naïf de croire que les mêmes banquiers qui pendant des décennies ont aidé leurs clients à dissimuler leur patrimoine, parfois en déplaçant des diamants dans des tubes de dentifrice ou en masquant des relevés bancaires dans des magazines sportifs. Ce serait naïf de penser que ces mêmes banquiers-là maintenant coopèrent en toute bonne foi avec les administrations fiscales du monde entier. Néanmoins, le contexte, le cadre réglementaire et juridique a profondément évolué en moins de 10 ans. Maintenant, sur la question des entreprises multinationales, il y a eu moins de progrès, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 40% des bénéfices multinationaux, c'est-à-dire réalisés par des entreprises hors du pays où elles ont leur chiffre d'affaires, 40% de ces bénéfices à l'échelle mondiale sont enregistrés, délocalisés dans les paradis fiscaux, l'Irlande, Singapour, à nouveau les îles Caïmans, les paradis fiscaux des Caraïbes, etc., où ces bénéfices sont soumis à des taux d'imposition dérisoires de l'ordre de 5%. Mmh. Il y a eu moins de progrès, mais il y a un début de reprise en main politique, notamment avec des discussions importantes qui ont lieu en ce moment même à l'OCDE.
Comment les États-Unis, qui connaissaient des taux d'imposition extrêmement élevés par le passé, sont-ils devenus les champions de l'injustice fiscale et comment réformer l'impôt outre-Atlantique ? On en parle dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Who wants to be a millionaire?
I don't.
Have flashy flunkies everywhere?
I don't.
Who wants the bother of a country estate?
A country estate is something I'd hate.
Who wants to wallow in champagne?
I don't.
Who wants a supersonic plane?
I don't.
Who wants a private landing field too?
I don't.
And I don't,
'cause all I want is you.
Who wants to be a millionaire?
I do.
Who wants uranium to spare?
I don't.
Who wants to journey on a gigantic yacht?
Do I want a yacht? Oh, how I do not.
Who wants a fancy foreign car?
Yeah, I do.
Who wants to tire of caviar?
Mm-hmm. Who wants a marble swimming pool too?
I don't.
And I don't,
cause all I want is you.
Who wants to be a millionaire?
I don't.
And go to every swell affair? Wants to ride behind the liveried chauffeur?
A liveried chauffeur? Do I want?
No, sir.
Who wants an opera box, I'll bet?
No, I don't. And sleep through Wagner at the Met?
Oh, I don't. Who wants to corner Cartier's too?
I don't.
And I don't. Cause all I want is you.
Who wants to be a millionaire? Frank Sinatra et Céleste Holm sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Gabriel Zucman pour parler de l'injustice fiscale aux États-Unis. Alors la question fiscale est centrale dans l'histoire des États-Unis. La révolte du Tea Boston Party, lorsqu'une cargaison de thé est jetée à l'eau en 1773 pour protester contre les taxes imposées par les Anglais, c'est un acte fondateur de la nation américaine, Gabriel Zucman.
Oui, c'est un acte qui a son importance dans la création des États-Unis, bien sûr, mais les impôts, c'est important dans tous les pays, pas seulement aux États-Unis. Le système fiscal, les impôts, c'est ça qui nous permet d'agir en commun, de mettre des ressources ensemble pour avoir des objectifs communs. Et donc, il n'y a pas de nation possible véritablement sans système fiscal. C'est pour ça que la question fiscale, bien sûr, traverse l'histoire américaine comme elle traverse l'histoire française. Et ce qui est particulièrement intéressant dans le cas américain, c'est de voir les changements majeurs et parfois très rapides qui ont eu lieu. C'est-à-dire que l'histoire de la fiscalité est pleine de bouleversements. Et c'est particulièrement le cas aux États-Unis. Par exemple, avant 1913, la Constitution américaine interdisait qu'il y ait un impôt fédéral sur les revenus. Et alors, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a une forte augmentation des inégalités aux États-Unis. Avec cette augmentation des inégalités, vient une demande sociale pour plus de justice fiscale, pour la création en particulier d'un impôt progressif sur le revenu. Ça met du temps, mais finalement, en 1913, les États-Unis changent leur Constitution, crée un impôt fédéral sur le revenu et en 4 ans seulement passe de aucune imposition des revenus à un taux marginal supérieur sur les plus hauts revenus de 70% en 1917, ce qui à l'époque était le taux le plus élevé qui ait jamais existé dans le monde. Donc on voit comment en 4 ans on peut passer de rien du tout à un système fiscal extrêmement progressif. Il va rester très progressif cet impôt sur le revenu américain, grosso modo de la Première Guerre mondiale à la fin des années 70. Et ce qui se passe sous Reagan, à nouveau en quelques années, il va y avoir des bouleversements très rapides, mais cette fois en sens inverse. C'est-à-dire que quand Reagan entre à la Maison Blanche, le taux marginal supérieur sur les plus hauts revenus est encore de 70%. Et en 1986, c'est le vote de la grande réforme fiscale de Reagan. Cette grande réforme fiscale ramène le taux marginal supérieur d'impôt sur les revenus à 28%, ce qui, en 1986, était le taux le plus faible de tous les pays industrialisés. En seulement 50, 80 et 86, il est ramené de 70% à 28%.
Alors justement, je vous propose d'écouter le discours de Ronald Reagan lors de la signature de sa Tax Reform Act le 22 octobre 1986.
Lorsque nos pères fondateurs ont construit ce gouvernement, du peuple, par le peuple et pour le peuple, ils n'avaient jamais imaginé ce que nous appelons aujourd'hui l'impôt progressif sur le revenu. Lorsque l'impôt sur le revenu a été perçu pour la première fois en 1913, la tranche supérieure était de 7% et s'appliquait aux personnes dont les revenus excédaient les 500 000 dollars. C'était l'équivalent des multimillionnaires d'aujourd'hui. Mais de notre vivant, nous avons vu bondir le taux d'imposition marginal jusqu'à 90%, et même les plus pauvres ne sont pas épargnés. Alors que les taux d'imposition augmentent, le code fiscal s'est complexifié. C'est un paradis pour les intérêts particuliers et les fraudeurs, mais une source de frustration infinie pour le reste du monde. Pendant les 20 dernières années, nous avons été témoins de l'augmentation et de la solidification de nos libertés civiques. Mais nos libertés économiques ont trop souvent été négligées, voire même abusées. Nous protégeons la liberté d'expression de l'auteur, et c'est heureux. Mais quid de la liberté d'expression de l'entrepreneur, dont le stylo et le papier sont du capital et des profits, dont le livre pourrait être une nouvelle invention ou une petite entreprise ? Pour ces raisons, cette loi fiscale n'est pas tant une liberté ou une réforme, devrais-je dire, qu'une révolution.
Gabriel Zucman, rappelez-nous peut-être dans quel contexte politique, économique, cette réforme fiscale est votée en 1986.
Eh bien, 1986, c'est le début du deuxième mandat de Reagan, et ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'à ce moment-là, le Parti républicain de Reagan n'a pas la majorité au Congrès. Le Congrès est à majorité démocrate. Et donc cette réforme fiscale, 1986, est votée avec une majorité de voix démocrates, mais plus que ça, elle est votée avec les voix de 96 sénateurs sur 100, y compris tous les caciques du Parti démocrate, qui allait être appelé à un brillant avenir. Par exemple, Joe Biden, aujourd'hui président des États-Unis, ou qui va être inauguré sous peu, était déjà sénateur en 1986, et en 1986, il vote en faveur de la grande réforme fiscale de Reagan, qui rabaisse le taux marginal supérieur d'imposition à 28%. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'il... comment c'est possible, finalement, qu'il y ait ce consensus autour de l'idée de raboter si fortement la progressivité de l'impôt. Et la réponse, c'est que au cours du premier mandat de Reagan, Reagan avait déjà modifié la fiscalité américaine pour faciliter l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale et les montages agressifs. Et on avait vu toute une industrie se développer, l'industrie dite des tax shelters aux États-Unis, c'est-à-dire des montages fictifs qui permettaient aux hauts revenus de ne pas payer pour l'essentiel d'impôt sur le revenu dans la première moitié des années 80. Cette industrie s'était développée avec l'aval de Reagan et du Parti républicain à tel point que au milieu des années 80, les élites politiques, intellectuelles, économiques de Washington en étaient venues à se convaincre elles-mêmes que finalement c'était plus possible d'avoir un système fiscal progressif, de faire payer les hauts revenus parce que ça allait être une machine, c'était une machine à optimisation fiscale, à évasion fiscale. Et d'ailleurs, dans tous les épisodes de déclin de la progressivité de l'impôt, on voit la même mécanique à l'œuvre. C'est-à-dire d'abord une explosion de l'évasion fiscale, ensuite des gouvernements qui se sentent dépassés, incapables d'endiguer le phénomène, et ensuite qui l'entérinent en baissant les taux nominaux d'imposition. Donc la réforme fiscale de Reagan, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, on est exactement dans la même spirale quand on regarde ce qui se passe sur l'impôt sur les sociétés, et en particulier l'imposition des multinationales. Il y a cette évasion fiscale rampante, des milliards, des dizaines de milliards d'euros qui sont enregistrés dans des paradis fiscaux comme les Bermudes. Les gouvernements du monde entier qui se disent finalement, mais on ne peut rien y faire, la concurrence fiscale, c'est une fatalité, c'est une loi de la nature. Aujourd'hui, le capital est immatériel, Google peut déplacer ses algorithmes de sa filiale américaine à sa filiale aux Bermudes en un clic de souris. Et donc finalement, on n'a pas d'autre choix que de baisser, nous aussi, à notre tour, les taux d'impôt sur les sociétés. Donc par exemple, la France est en train de baisser son taux d'impôt sur les bénéfices de sociétés de 33%. À 25% à l'horizon 2022.
Alors que ce que vous dites, vous, Gabriel Zucman, c'est qu'il faut aujourd'hui dépasser l'affaire en référence à cette courbe qui estime qu'à partir d'un certain point, plus on augmente les impôts, plus on sape l'économie et finalement le système fiscal lui-même. Pourquoi est-ce qu'il faut dépasser l'affaire ?
Alors, Moi, il y a deux choses sur lesquelles je souhaite insister. La première, c'est que tolérer l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, c'est un choix et on peut faire d'autres choix. C'est-à-dire, au lieu d'accepter la concurrence fiscale, on peut se coordonner, par exemple. Au lieu de laisser les grandes fortunes enregistrer leur patrimoine dans des paradis fiscaux opaques, on peut choisir, au contraire, de créer de la transparence financière via un cadastre financier français, européen ou mondial, etc. Donc, c'est très important de comprendre que l'optimisation fiscale, c'est un choix. On choisit de la tolérer ou on choisit au contraire de l'empêcher. À partir du moment où on réduit l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale au minimum, c'est tout à fait possible d'avoir un système fiscal très progressif. Les États-Unis des années 30, des années 70 l'illustrent bien. Et ensuite, la question qui se pose, c'est que doit faire fondamentalement, et c'est le deuxième point, que doit faire fondamentalement le système fiscal? Là, il y a deux visions. Disons, pas qui s'opposent, mais deux visions différentes. Il y a une vision qui consiste à dire le but des impôts, c'est de collecter le plus de recettes possibles pour ensuite les redistribuer, les dépenser. Bon, ça, c'est une vision possible. Et il y a une autre vision qui consiste à dire le rôle du système fiscal va au-delà de ça. Et l'outil fiscal peut être utilisé pour réguler les inégalités. Non pas en collectant plus de recettes qui vont ensuite être redistribuées, mais en changeant la répartition des revenus avant impôt. L'idée est bien illustrée par le discours. Cette idée est bien illustrée par le discours de Franklin Roosevelt au Congrès en 1942. Roosevelt va au Congrès et il dit aux parlementaires américains: écoutez, moi je pense qu'aucun Américain ne devrait avoir un revenu après impôt de plus de 25 000 dollars de l'époque, ce qui est l'équivalent à peu près $1 million d'aujourd'hui. Et je propose donc de créer une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu de 100% au-delà de 25 000 dollars. Autrement dit, ce discours de Roosevelt consiste simplement à dire: nous allons utiliser l'impôt pour créer un revenu maximal. Personne ne va gagner plus de 25 000 dollars. On comprend très bien que s'il y a un taux d'imposition de 100% au-delà de 25 000 dollars, il n'y aura plus aucun salaire de plus de 25 000 dollars. Il n'y aura plus aucun revenu avant impôt de plus de 25 000 dollars.
Et ça, c'est peut-être la position qui est partagée par Bernie Sanders, que vous avez conseillé, ainsi que Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, là où peut-être que Joe Biden a au contraire une vision selon laquelle il faudrait engranger des recettes principalement pour les redistribuer.
Alors, en tout cas, c'est la position, cette position formulée par Franklin Roosevelt, d'utiliser l'outil fiscal pour réguler les inégalités, pour réguler l'économie de marché. C'est une position qui a fait consensus quasiment aux États-Unis dans les années 40, les années 50, les années 60, 70, et c'est contre cette vision que Reagan s'inscrit. Aujourd'hui, vous avez raison de souligner que c'est des idées qui reviennent en force dans une frange du Parti démocrate, en particulier dans l'électorat de Bernie Sanders. Par exemple, quand on demande, mais pas seulement dans l'électorat de Bernie Sanders, c'est plus large que ça. Par exemple, quand on demande aux Américains, est-ce que vous pensez que les milliardaires devraient exister? Est-ce que ça devrait être possible d'accumuler une fortune de plus d'un milliard de dollars? Il y a beaucoup d'Américains qui répondent non. Simplement que dans une économie bien régulé, fonctionnel, en fait, ça ne devrait pas être possible d'accumuler des fortunes titanesques de plusieurs milliards, ou même maintenant dizaines ou centaines de milliards de dollars.
Mais c'est une opinion qui ressurgit aujourd'hui, Gabriel Zucman, et qui a été longtemps assez en retrait. Vous disiez dans une interview pour Le Monde que même les économistes de gauche s'étaient laissés convaincre que les Américains étaient anti-impôts.
Oui, alors tout à fait, ils se sont laissés convaincre, ils ont abandonné la question fiscale. Les économistes du Parti démocrate, à partir des années 80, l'idéologie réaganienne a triomphé et a convaincu beaucoup. La plupart des économistes, vous avez raison, sont laissés convaincre, et la plupart des commentateurs, des décideurs politiques, sont laissés convaincre que finalement les Américains étaient fondamentalement anti-impôts, que l'acte fondateur des États-Unis c'était la Boston Tea Party, et ont oublié tout un pan de leur propre histoire. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux traditions aux États-Unis qui s'opposent. Il y a effectivement une tradition anti-impôt virulente qui a été portée à son paroxysme par les esclavagistes des États, des colonies et puis des États du Sud au XIXe siècle, qui vociféraient contre les projets de création d'impôts sur le revenu, se lamentaient de son caractère inquisitorial, etc., et qui ont développé la rhétorique anti-fiscale, anti-impôt, anti-gouvernement à son paroxysme. Et il y a une autre tradition qui parfois est oubliée, qui est la tradition, disons, rooseveltienne, mais qui remonte bien avant Roosevelt. Par exemple, si on lit les écrits de James Madison, qui est le père de la Constitution américaine, Madison, à la fin du XVIIIe siècle, il écrit que une accumulation excessive de fortune, c'est une menace pour la République, pour la démocratie. Que vivre dans une société où les fortunes sont trop concentrées, c'est aussi dangereux que d'être dans un état de guerre. Ça va se traduire par des phénomènes de capture politique, de capture du pouvoir économique, et ça va saper la démocratie et la République. Et donc, il dit que Madison dit que le rôle des partis politiques doit être d'empêcher une accumulation immodérée de fortune. Madison, c'est encore un héros pour les républicains d'aujourd'hui. Et pourquoi il tient ce discours à la fin du XVIIIe siècle? Parce que les États-Unis se sont créés en grande partie en réaction contre l'Europe aristocratique et archi-inégalitaire du XVIIIe siècle. Et donc l'Europe à cette époque très inégalitaire, c'était l'anti-modèle pour les révolutionnaires américains, c'était le modèle à éviter, et l'Europe était perçue comme excessivement inégalitaire. Avec Reagan, il y a eu une inversion de cette vision-là, l'Europe en est venue à être perçue comme étant au contraire excessivement égalitaire et un modèle à éviter pour cette raison-là. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement ce débat entre ces deux idéologies, ces deux visions, ces deux traditions par rapport à l'impôt et au rôle du gouvernement aux États-Unis.
Et alors, où se situe Joe Biden entre ces deux traditions? Je vous propose de l'écouter lors d'une interview sur ABC News. C'était le 15 octobre dernier.
Nous avons réduit les impôts sur les sociétés qui étaient à 35%. Les démocrates, comme les républicains, pensaient qu'ils devraient être établis à 28%. Trump les a réduits à 21%. 91 des 500 plus grandes entreprises ne payent pas un centime d'impôt. Si vous réaugmentez les impôts sur les sociétés à 28%, ce qui est un taux juste, vous encaissez 1 300 milliards de dollars par ce simple geste. Si vous vous assurez que les personnes qui gagnent plus de 400 000 dollars par an soient imposées à 39,6% comme il l'était sous l'administration Bush, vous encaissez 92 000 milliards de dollars. Donc, vous pouvez augmenter les recettes pour rendre la vie des Américains plus facile. Améliorer votre niveau de vie en s'assurant que vous ayez accès à un système de santé abordable, que vous puissiez envoyer votre enfant à l'école et payer votre dette étudiante ou votre hypothèque.
Gabriel Zucman, que nous dit le programme fiscal de Joe Biden? Que traduit-il selon vous?
Alors, le programme de Joe Biden en matière économique est contrasté, c'est-à-dire que sur certains sujets, c'est un programme ambitieux. Par exemple, Joe Biden propose de doubler le salaire minimum fédéral, qui est aujourd'hui de 7,25 $ de l'heure. Il propose de l'augmenter à 15 $ de l'heure, ce qui serait plus que le SMIC horaire français. En matière climatique, d'investissement dans la transition énergétique, Joe Biden est aussi très ambitieux. En matière d'impôts, c'est beaucoup moins le cas. C'est-à-dire que c'est pas un domaine qui a l'air de l'intéresser particulièrement. Sa proposition principale consiste à revenir en partie, et seulement en partie, sur les baisses d'impôts de Donald Trump. Donc Trump a baissé l'impôt sur les sociétés de 35% à 21%, et Joe Biden, lui, propose de revenir à mi-chemin, c'est-à-dire à 28%. Bon. Il propose d'augmenter les impôts sur les ménages qui gagnent plus de 400 000 dollars par an de revenus. Donc grosso modo, c'est le seuil pour faire partie des 1% les plus riches aux États-Unis, qui est un peu plus élevé, 500 000 dollars, mais grosso modo, c'est ça.
En revanche, il n'a pas gardé la proposition d'un impôt sur la fortune, contrairement à Bernie Sanders, par exemple. Comment l'expliquer à Gabriel Zucman?
Alors, tout à fait. Donc, par exemple, là, l'idée d'impôt sur les grandes fortunes n'a pas été retenue dans le programme de Joe Biden, alors même que, sondage après sondage, enquête d'opinion après enquête d'opinion, on voit que c'est une idée qui est extrêmement populaire dans l'électorat américain. Pas seulement chez les démocrates, où c'est plus de 70% des démocrates qui plébiscitent cette idée d'un impôt sur les très grandes fortunes, mais même chez les indépendants et chez les républicains, où il y a plus de 50% des électeurs qui se déclarent en faveur d'un tel impôt. Alors, pourquoi est-ce que Joe Biden ne l'a pas repris? Bon, déjà, je pense que c'est une idée qui est vraiment nouvelle dans le contexte du débat public américain. Les États-Unis n'ont jamais eu d'impôt fédéral annuel sur la fortune, à l'inverse de la France, à l'inverse de la plupart des pays européens. Donc, ça met un peu de temps. Il y a aussi sans doute le fait que Joe Biden n'a pas encore complètement quitté, le défaitisme réganien, consiste à penser que c'est impossible de taxer les très grandes fortunes, ça va être une machine à optimisation fiscale, à évasion fiscale. Donc il y a un certain manque d'optimisme et de volontarisme politique sur la question fiscale. Mais moi, je suis assez optimiste parce que quand on regarde ces enquêtes d'opinion, on voit que c'est une mesure qui est plébiscitée et donc il y a de bonnes chances qu'elle reste dans le débat public américain dans les années qui viennent.
Justement, Gabriel Zucman, je voudrais vous entendre là-dessus pour conclure. Est-ce que vous diriez que l'élection de Joe Biden est le signe aujourd'hui que les Américains aspirent, notamment parmi d'autres aspirations, à plus de justice fiscale?
Je pense que les Américains aspirent à plus de justice fiscale parce que c'est ce qu'ils déclarent année après année dans les enquêtes d'opinion. Et en fait, c'est même pas nouveau. C'est-à-dire que ça remonte déjà au début des années 2000 qu'on voit dans les enquêtes qui sont menées que quand on demande aux Américains « Pensez-vous que les hauts revenus payent suffisamment d'impôts ?» Une majorité répond non. « Pensez-vous que les multinationales payent suffisamment d'impôts ?» Une grande majorité, à nouveau, répondons. Donc cette demande de justice fiscale est là. Malheureusement, il y a fort à craindre que Joe Biden ne soit pas le président qui va permettre de l'incarner, d'une part parce qu'il n'est pas passionné par ces questions-là, mais ensuite et surtout parce que il risque de ne pas avoir de majorité au Sénat, ou s'il a une majorité, elle sera extrêmement étriquée, ce qui ne permettra pas de faire passer des lois fiscales, ou même dans d'autres domaines suffisamment ambitieuses. Néanmoins, compte tenu de cette demande de justice fiscale, de justice économique, de justice sociale, environnementale, qui s'exprime très fortement aujourd'hui dans la société américaine, on peut être optimiste quant à la possibilité de progrès réel, non pas dans les deux ou les quatre années qui viennent, mais plus à moyen terme.
Un grand merci, Gabriel Zucman, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission depuis la Californie. Vous êtes près de Berkeley à l'heure actuelle. Un grand merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage écrit avec Emmanuel Seize, Le triomphe de l'injustice, richesse, évasion fiscale et démocratie, paru au Seuil. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
2020 restera aussi l'année de la logistique et désormais il ne faut plus dire l'intendance suivra, mais bien l'intendance précède.
Oui, et même l'intendance précède l'essence presque littéralement, car ce long minuit relationnel qu'est 2020 a bien été l'heure de gloire de la logistique, ou pour vous familiariser tout de suite avec l'anglicisme utilisé, de la supply chain, la chaîne d'approvisionnement tout simplement. La pandémie a révélé en effet les lacunes des stocks publics, masques ou médicaments, mais aussi la vitalité du secteur logistique privé en France, dit ainsi Eric Hansen dans Les Échos, une croissance d'activité de 20% pour les transporteurs logisticiens, 30% chez Colissimo, filiale de La Poste, et une hausse des colis de 175% pour l'e-commerce de la grande distribution. Et si l'hiver sera celui de tous les défis, dit-il, avec la campagne de vaccins qui a débuté le week-end dernier, ce sont quand même des millions de doses à distribuer des aéroports aux hôpitaux, puis dans les points de distribution locaux en moins de 5 jours pour ne pas casser la chaîne du froid, eh bien les professionnels se montrent confiants, puisque comme la distribution se fera en plusieurs phases, il ne faudrait que quelques centaines de camions réfrigérés, disent-ils, alors que la France en possède des milliers.
Et les acteurs de la supply chain accèdent ainsi à une reconnaissance nouvelle ?
Oui, Tiphaine, reconnaissance professionnelle d'abord, explique cette fois Julien Lebolser dans Les Échos toujours, avec des compétences très demandées, des entrepôts jusqu'aux start-up, des fonctions supply chain qui augmentent au sein des comités exécutifs et un marché de l'emploi équilibré, voire une tension sur des métiers très bankable, poursuit-il, directeur de site logistique, responsable transport, chef de projet, et puis j'aurais dû commencer par là pour attiser les vocations, une rémunération de 75 000 à 200 000 euros par an. Reconnaissance politique ensuite, avec au début du mois un plan logistique du gouvernement d'1,7 milliard d'euros et 16 mesures pour moderniser et verdir le secteur, après déjà un premier train de mesures l'année dernière et déjà un assouplissement des réglementations et de la fiscalité pour installer les entrepôts, un des nerfs de la guerre. Bref, avec ce deuxième plan, le gouvernement se plie bien en 4 x 4 égale 16 pour répondre aux problèmes du secteur.
Un secteur qui souffre cependant d'une certaine faiblesse, Xavier ?
Oui, un déficit de compétitivité d'abord. En 2018, la France n'était qu'au 16e rang international selon la Banque mondiale et cela ne tient pas qu'à sa taille puisque l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas sont en tête. Restent les deux autres faiblesses pointées en 2019, la fluidité aux frontières, cruciale au moment du Brexit, et les lacunes du fret et du transport fluvial pour lesquelles le nouveau plan prévoit 870 millions d'euros. Et puis une troisième faiblesse peut-être négligée relève dans le Monde le chercheur Rida Derwish et ses collègues de l'EM Strasbourg Business School, c'est la logistique des TPE-PME. 99% des entreprises françaises aux marges coincées entre leurs petites camionnettes et la multiplicité des points de livraison. Selon eux, une mutualisation de leur transport via une plateforme de type BlaBlaCar permettrait de réduire de 20 à 45% leurs coûts, mais aussi la pollution et les accidents routiers. Une vertu sanitaire, souligne-t-il.
En tout cas, la révolution mondiale des approvisionnements n'a pas eu lieu. Pas de remise en cause des grands choix logistiques.
Et non, d'abord, pas de grande relocalisation, malgré les déclarations d'indépendance économique des dirigeants, prédisait en juin dans la tribune l'un des spécialistes du sujet, Aurélien Rouquet, considérant que la pandémie ne changeait pas les fondamentaux, localisation des matières premières, chaîne de valeur fragmentée, dumping salarial, une diversification des stratégies d'approvisionnement, mais pas la fin de la mondialisation, confirme d'ailleurs un récent sondage Euler Hermès, car Tiphaine, la logistique mondiale ne vise pas seulement à approvisionner les usines en réduisant les délais, mais à fournir aux consommateurs le plus large choix de produits personnalisés. C'est la stratégie de l'agroalimentaire ou automobile depuis les années 80, expliqué déjà en 2005 un autre spécialiste, Jacques Collin, dans la revue française de stratégie. Le problème n'est pas la gestion de la pénurie comme dans l'après-guerre, mais celui d'une hyperabondance des produits. Et dans ce vrai monde d'après déjà là, le flux est tout, le stock est l'ennemi, il détermine la action de tous les secteurs des grandes entreprises, au point que Jacques Collin le demande. La logistique, autrefois affaire d'ingénieurs, existe-t-elle réellement ? Plus de stocks, en effet, plus de problèmes logistiques, ça paraît logique. Et ça éclaire pour ceux qui l'ont vu l'étrange film « Seul au monde » en 2000, qui met en scène un ingénieur logistique chargé d'améliorer la productivité des entrepôts de FedEx, qui se retrouve perdu et démuni sur une île déserte après un accident d'avion. Qui sait ce que la prochaine vague peut nous apporter, conclut ainsi le sage logisticien.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr. C'était Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Félix Levaché, à la technique, Clara Galivelle et Alex Dang. Demain, dernier épisode de notre semaine américaine, on se demandera comment lutter contre les monopoles avec le grand spécialiste de la question, Thomas Philippon. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.